Le 13 avril 1945, à l'hôtel de ville de Paris, se tient le congrès de la Fédération des prisonniers de guerre. L'ancien secrétaire général aux prisonniers et déportés, François Mitran, rappelle les efforts déjà accomplis.
Je pourrais quand même dire et affirmer en toute vérité que de nombreuses villes importantes de France furent délivrées par des groupes spécifiquement prisonniers de guerre. Et je pourrais rappeler qu'à Paris comme ailleurs, les prisonniers de guerre étaient au premier rang, c'est-à-dire autour de l'hôtel de ville, c'est-à-dire autour de la cité, c'est-à-dire aux Batignolles, c'est-à-dire dans la banlieue ouest, c'est-à-dire dans la banlieue nord, partout où l'Allemand s'accrochait, nous avons été présents. Mais dès les premiers jours, les centres d'entraide ont eu dans leurs représentants Deveau, Cornuau, quelques autres. Des hommes à l'intelligence et au cœur suffisamment vaste pour admettre qu'il y avait quelque chose de magnifique à construire. Et quand nous nous sommes retrouvés rue Meyerbeer, alors que les Allemands étaient encore dans la commandanture voisine, alors que les Allemands circulaient dans la rue même, et que nous nous sommes dit, voici que la France est libre, et qu'allons-nous faire? Voici que la France enfin retrouve son indépendance et peut retrouver sa grandeur, est-ce que nous, les captifs, de quelque chapelle et de quelque origine que nous soyons, nous allons, oui ou non, participer à cette grandeur? Et nous étions saisis par le rôle magnifique et lourd qui nous incombait. Et nous avons essayé de toutes nos forces d'imprimer à la direction nouvelle de nos groupements ce sens de l'avenir que le Congrès d'aujourd'hui doit préciser et développer.
En pleine guerre froide, l'URSS décide, en décembre 1947, l'expulsion de la mission de rapatriement des prisonniers français. Pour la plupart, Alsaciens lorrains incorporés de force dans l'armée allemande pendant la guerre. François Mitran, ministre des Anciens combattants, ne dissimule pas son inquiétude.
Sans cesse, le gouvernement français a demandé au gouvernement de l'URSS l'application de l'accord du 29 juin. Et plus précisément, la stricte réciprocité des avantages consentis aux missions soviétiques. Afin de hâter le retour des nôtres, tout a été tenté. Lors de la conférence de Moscou, un délégué français fut spécialement chargé de traiter de ce problème avec les autorités soviétiques, en avril 1947. On put penser un moment que nos efforts allaient aboutir. Trois délégués alsaciens et lorrains furent autorisés à rejoindre à Moscou nos deux représentants. Malheureusement, nos trois délégués ne purent obtenir leur visa qu'au mois d'août. Et si nous pûmes rendre à leur patrie et à leur famille 70 des nôtres au cours de ces derniers mois, il ne fut pas possible d'obtenir que des moyens réellement efficaces fussent mis à notre disposition. Sans doute, nous tenons compte, comme nous l'avons toujours fait, des difficultés matérielles rencontrées par le gouvernement soviétique dans un immense pays mal remis des souffrances de la guerre et dont les saisons rudes et des moyens de transport limités accroissent encore l'étendue. Mais nous devions au moins exiger l'application des accords. C'est ce que nous avons fait inlassablement, avec d'autant plus de force que nous-mêmes, nous n'avions pas hésité, en particulier dans l'administration du camp de Bourga, à laisser aux ressortissants soviétiques des facilités de transport, de détection et de recherche. La liberté de quelques centaines de Français valait bien cette patience extrême. Il y a quelques semaines encore, lorsqu'il fut avéré que le camp de Beauregard était utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait été installé, lorsqu'il fut prouvé que des officiers de la mission de rapatriement soviétique dépassaient les limites du mandat administratif auquel ils étaient tenus, le gouvernement français a indiqué que s'il ordonnait l'expulsion d'agents indésirables, il tenait à ce que ceux-ci fussent remplacés sans délai dans leurs fonctions par de nouveaux délégués. En la matière, le gouvernement agissait fidèlement selon la lettre des accords, qui prévoyait qu'aucune propagande hostile dirigée contre les hautes parties contractantes ou contre l'une quelconque des Nations Unies ne serait tolérée et que, dans certains cas exceptionnels, le transfert des citoyens libérés d'un camp à un autre pourrait être effectué sans accord préalable. Nous sommes, quant à nous, toujours décidés à maintenir l'application intégrale des accords librement signés, à la seule condition que cette application soit effectivement réciproque. C'est là une garantie qui nous reste et dont nous userons. Il faut qu'au plus tôt soient connus les noms des vivants et des morts. Il faut que les vivants reviennent. Il faut que cette tragédie de l'incertitude se termine. Vis-à-vis de tous, la France a tenu constamment sa parole. La victoire de la liberté, la victoire des démocraties, ne peut avoir de sens que si, après tant de malheurs causés par la barbarie, arrive enfin le temps où la parole des hommes et des peuples aura retrouvé son exacte valeur.
Au cours d'une conférence tenue en novembre 1948 à Nevers, chef-lieu du département dont il est le député depuis 1946, Mitran, alors secrétaire d'État à la présidence du Conseil, rappelle son attachement aux institutions républicaines.
Je voudrais dire, à mon sens, le véritable éloge de la République. Sans doute, il faut qu'elle soit forte. Il faut qu'elle exige partout le respect de la loi, expression et seule expression de la volonté générale. Mais ce qui fait aussi sa valeur, c'est que, en prenant peut-être un peu plus de temps que les autres, peut-être en prenant un peu plus de forme, peut-être en perdant un peu de terrain, elle est tout de même sûre, en fin de compte, de conserver le seul terrain qui lui importe, à savoir la dignité de l'homme qui mérite le seul combat. Mais il y a peut-être d'autres moyens, quand ce ne serait que l'Europe. L'identité des besoins, l'identité des menaces, l'identité des malheurs construit une nouvelle fraternité. C'est d'un pays à l'autre qu'on se tend la main pour franchir le mauvais passage. C'est en adaptant les lois à une commune pensée, c'est en revenant à une commune source que les peuples d'Europe demeureront fidèles à la révolution pour que triomphe enfin cette notion de dignité. C'est dans le respect de nos traditions républicaines, dans le souci aussi, non pas comme contrepartie, mais comme complément, dans le souci du progrès selon les normes républicaines, que l'Europe cimentera sa future fédération. Rien de ce qui touche une république quelque part dans le monde ne doit nous être indifférent. Les coups mortels, dont certaines ont été frappées, qu'annonçait-il ? Si tu entends le glas, ne dis pas pour qui sonne-t-il, sonne pourquoi. Mais du même coup, si tu entends le chant d'allégresse d'un homme libéré, ne me questionne pas, il chante ta liberté.
C'est en qualité de porte-parole du gouvernement qu'il prend la parole à la radio en mars 1949.
Les assemblées parlementaires vont se séparer pour quelques jours. Il est bon que l'opinion publique soit informée maintenant des conditions dans lesquelles le gouvernement a mené les affaires du pays. Aussi, les responsables des différents départements ministériels vous diront-ils dans les jours qui viennent quelle a été leur action, quels desseins ont été les leurs, quels résultats ils ont obtenus. Il ne s'agit pas pour le gouvernement de polémiquer, mais d'expliquer et de permettre aux citoyens d'un pays libre de connaître exactement de quelle manière il est conduit. Hier soir, le ministre des Finances et des Affaires économiques, M. Maurice Petsch, le rappelait. La réussite de l'emprunt signifie quoi, sinon que la France reprend confiance en elle-même, et par là, qu'elle estime possible de parvenir à son équilibre par les moyens des institutions qu'elle s'est librement données. Je n'ai pas l'intention ce soir d'évoquer tous les problèmes, certes. Devrais-je taire pourtant notre effort sur le plan extérieur ? Nos ministres des Affaires étrangères ont su faire entendre la voix de la France. Et chaque fois, cela a été dans le sens de la paix internationale et de la sécurité nationale. Certains crient aux menaces de guerre. N'ont-ils pas l'intention de créer une psychose dont l'effet le plus certain serait justement de nous rapprocher d'une aussi redoutable échéance? Ne sont-ils pas surtout amers de voir notre politique prudente et sage préparer les voies d'une ère pacifique dans une Europe unie et dans la liberté de ses peuples? À l'inquiétude, à l'incertitude, nous répondrons toujours par la volonté de sereine de ceux qui n'ont qu'une passion, la paix par la liberté. Paix intérieure, paix extérieure, garde vigilante de nos libertés individuelles et collectives. Ce programme a été fidèlement suivi par le gouvernement. À ce dernier, il reste des tâches nombreuses et délicates à accomplir. Par une politique prévoyante de nos investissements, il nous faudra maintenant parer aux risques qui pourraient naître de l'efficacité même de notre action.
Le 31 décembre 1950, le ministre de la France d'Outre-mer se conforme à la tradition des vœux de Nouvel An.
Au vœu que la coutume fait échanger, dans chaque foyer, au seuil de la nouvelle année, qu'il soit permis au ministre de la France d'Outre-mer de joindre les siens et ceux du gouvernement. Vœux de prospérité pour chacun des foyers français répartis au-delà des mers. Vœux aussi de santé et de paix pour les territoires. Une année s'achève, une autre commence. On peut déjà, avec fierté, considérer le passé. Grâce aux efforts et aux sacrifices communs de la métropole et des territoires, la France d'outre-mer a pris le départ. Partout, une œuvre gigantesque est commencée. Travaillant ensemble, dans leurs assemblées, tous ont compris qu'il n'y avait qu'un seul problème, le développement économique dont dépendent tous les autres. L'Union française est née, elle grandit et se fortifie sans cesse. Les temps, certes, sont troublés, mais la France n'a-t-elle pas forgé sa grandeur au cours des siècles, au milieu des pires épreuves? La République française, outre-mer, procédant du même génie créateur, se forgera demain. Le gouvernement, pour sa part, est résolu à poursuivre la tâche entreprise. Les Français d'outre-mer doivent savoir qu'ils peuvent compter sur la métropole. La métropole sait qu'elle peut faire foi sur eux. Français de France et d'outre-mer, marchons donc la main dans la main avec confiance vers l'avenir. Notre unité est notre force et le gage de notre indépendance commune. Que le bonheur et la santé règnent dans vos foyers. Que la prospérité couronne vos efforts. C'est là, croyez-le, mon ardent désir et le souhait sincère que je vous adresse.
Vendredi 13 avril 1951, salle Pleyel, François Mitran fait une conférence sur le thème « Influence de l'Afrique dans le monde ».
J'essaie de vous dire, ou j'ai tenté de le faire, que l'Afrique est aussi bien dans le siècle en ce qui concerne les hommes, mais que là, d'un siècle à l'autre, il n'y a point de frontière, et que pour comprendre le nôtre, il faut savoir ce qui, depuis le début des âges, a nourri le cœur des hommes. Il faut s'intéresser à cela pour essayer de comprendre et aussi fonder notre politique, connaître ce qui attache l'homme à la nature et l'idée qu'il s'en fait et quelle représentation supérieure il s'en donne. Savoir pourquoi il choisit ses dieux ou les représentations de ses dieux, pourquoi il préfère ce dieu-ci à celui-là, ou bien tout simplement pourquoi il aime le dieu qui a fait la terre et les hommes. Il est nécessaire aussi de savoir cela, sans pour cela adopter les croyances qu'il développe, mais au moins les connaître, pour comprendre aussi certaines résignations apparentes et certaines révoltes inattendues. Il y a le respect des hommes, dont la France a toujours été le témoin, dont la France a toujours été le défenseur. Il y a cette constatation d'une civilisation française projetée en Afrique, intimement transformée et pénétrée par la civilisation originelle, et qui offre, tout d'un coup, à celui qui veut le voir en ce milieu de notre siècle, qui offre tout d'un coup cette présentation d'un homme nouveau. Songez que pendant des siècles, on est venu chercher des hommes là. Songez que ces hommes, on les a transportés, arrachés à ce qu'ils aimaient. Et les voilà, bien ou maltraités, surtout maltraités, qui sont chargés de travailler un sol inconnu. Qu'en est-il aujourd'hui? Sinon que l'Afrique dans le siècle, elle est aussi conquérante. Alors, on peut aussi s'interroger sur le destin de cette terre immense qui fait que lorsque l'on se trouve à Nairobi et que l'on croit, pauvre Français, sachant peu sa géographie, que l'on est là-bas très loin, très au sud,
et que l'on regarde les panneaux indicateurs dont sont si amateurs les Britanniques, que l'on est encore, et c'est désespérant, plus près du Caire que du Cap. Cette tromperie des cartes qu'on nous soumet et qui nous fait ignorer que le centre du monde, pesant, impénétrable, d'ici longtemps, c'est cette masse africaine qui va du désert au Sahel, à la brousse, à la forêt, à la mer, et qui comporte, dans une sorte d'immense panorama, toutes les sécheresses et toutes les douceurs, tout ce qui convient à l'homme et tout ce qu'il fait mourir. Et si j'ai lu tout cela, c'est parce que il me semble que cette Afrique-là, qui existait, il faudrait faire la démonstration, après ce que je vais dire, qu'elle existe toujours, et qu'à travers les plans, et qu'à travers les masses, et qu'à travers les fouilles dans le sol, et qu'à travers tout ce qui sort de ce sol, et qu'à travers cette marche obscure d'une masse qui se crée, qui se divise, qui se concentre, il reste l'homme noir. Et cet homme noir est celui qui, dans la case enfumée, reste fidèle au souvenir des morts qui, au-dessous du sol, sont la terre, qui, au-dessous du sol, forme l'humus qui formera les vivants. Et lorsqu'il revient chez lui à tout moment, nous ne devons jamais oublier qu'il y a cet homme vibrant, sensible, attaché à ses traditions, respectueux de lui-même et des siens, et qui échangera toujours tous les trésors, toutes les richesses et tous les biens contre l'intégrité de sa race et l'intégrité de son être.
Juin 1953, conférence internationale des jeunes du mouvement européen sur les problèmes posés en Europe centrale et orientale. Devant 150 représentants des diverses sections, François Mitran réaffirme sa foi dans l'avenir de l'Europe.
Rien ne sera possible sans nos amis de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. Rien ne sera possible pour l'Europe si l'Europe tout entière n'est pas un jour réunie. Rien ne sera possible si les jeunes gens qui sont ici n'ont pas le sentiment que la grande leçon de nos souffrances, de leurs souffrances, c'est la construction d'un monde nouveau sur des institutions politiques nouvelles, sur une compréhension des besoins sociaux nouvelles et sur tout simplement ce qui est l'objet de nos discussions quotidiennes, à savoir cette Europe dont l'Europe des six n'est qu'une préfiguration extrêmement restreinte qui ne peut satisfaire personne.
Jeudi 9 septembre 1954, un violent séisme détruit Orléansville, faisant près de 1500 victimes. Ministre de l'Intérieur du cabinet Manès France, François Mitran apporte à l'Algérie en deuil le soutien de la métropole.
Messieurs, je suis venu apporter le salut du gouvernement de la France aux victimes d'abord, à ceux qui restent, qui souffrent et qui pleurent. L'étendue de la catastrophe frappe sans doute les imaginations à travers le monde. Qui vivent dans cette ville, dans les villages voisins, dans cette région conquise par les forces des hommes. Cela signifie des visages disparus, des êtres chers perdus, une ville quotidienne, des bâtiments, des maisons, tout le paysage de la vie détruit. Et c'est pourquoi, bien au-delà de cet horizon, si l'on songe à vous, si l'on pense à vous, si l'on cherche à vous aider, et depuis trois jours, partout, un mouvement de solidarité s'est déclenché. C'est tout de même sur cette place, à travers ces rues, devant ces décombres, devant votre peine, qu'on comprend davantage. Il y a eu un mouvement qui prouve l'unité d'un peuple. Je ne parlerai pas des administrations, ce n'est pas de moi qu'elles doivent attendre aujourd'hui. Et remerciements. Car l'œuvre continue, elle y est prête. Mais comment ne pas signaler l'effort remarquable des services de santé qui, à l'heure où ça, au moment dû le recevoir des doigts fort éloignés. Les blessés, qui dénombrent les morts, et qui, ici même, dans des conditions d'improvisation, mais aussi de ténacité et de science, permettent déjà à des familles d'espérer. Comment ne saluerait-ce pas cet effort de solidarité marqué à Alger, à la fois dans les hôpitaux où les blessés ont trouvé la place, mais aussi de toute la population, de ces donneurs de sang, qui à l'appel même de l'administration, devant le besoin, devant l'appel urgent qui leur était fait, ont voulu, par le don de leur sang, démontrer qu'à travers toutes les villes de ce beau pays, il existait désormais ce sentiment d'unité et de communauté dont j'ai parlé.
L'Assemblée nationale a été dissoute et les élections législatives ont été fixées au 1er janvier 1956. La campagne électorale donne l'occasion aux leaders politiques de prendre la parole à la radio. Le jeudi 30 décembre, c'est le tour du président de l'UDSR.
Je veux aujourd'hui rappeler à tous ce qu'est et ce que veut l'Union démocratique et socialiste de la résistance. Ce parti, fondé au lendemain de la libération, par des femmes et des hommes formés aux rudes disciplines de la résistance, et qu'animait surtout la volonté de refaire l'unité de la France, n'a pas achevé sa mission, loin de là. Au moment où tant de tâches attendent les responsables de la nation, face au drame de l'Union française, face aux difficultés des travailleurs, face à la nécessité de réformer l'État, l'UDSR a mis en œuvre un programme d'action précis. En Afrique noire comme en Afrique du Nord, en Indochine comme à Madagascar, l'UDSR a constamment cherché à construire une communauté durable et fraternelle. L'UDSR a voté dans ses congrès de 1951 et de 1952 les conditions politiques de la paix en Indochine, celle-là même qu'en 1954, l'action énergique et efficace du président Mendès France devait faire prévaloir. Pour l'Afrique du Nord, elle s'est associée étroitement à la conciliation en Tunisie, comme elle a dénoncé l'absurde complot qui, en 1953, engagea la France au Maroc dans une suite d'événements tragiques et de déchirements fratricides dont notre patrie fut en fin de compte la première victime. Quant à l'Algérie, on sait qu'aux côtés de Pierre Mendès France, j'ai présenté le 4 février 1955 un plan de réforme que la majorité modérée de l'Assemblée nationale refusa, aidée d'ailleurs en ceci par le Parti communiste, prenant ainsi devant l'histoire la lourde responsabilité de manquer une chance de concorde et de paix. En cet instant même où l'Algérie souffre de tant d'années perdues et de tant d'inégalités accumulées jusqu'à la révolte, l'UDSR continuant l'œuvre qui fut la sienne depuis plus de 10 ans, affirme que ses efforts seront consacrés par priorité à tenter de résoudre pacifiquement le problème algérien. Tel est le thème principal qu'un jeune parti qui se forma dans les douleurs et les colères d'une patrie déchirée propose à vos réflexions au cours de ces brèves minutes. Mais les solutions que supposent les besoins du monde moderne ne seront pas trouvées dans la routine et le seul souvenir de vieilles querelles. L'UDSR affronte le combat démocratique du 2 janvier 1956 dans le cadre du Front républicain, ce qui signifie pour elle un choix, et ce choix s'appelle progrès, justice, jeunesse et paix, sans sectarisme, et dans le seul souci de servir la France et la démocratie. Elle vous engage à lutter contre les partis totalitaires et à condamner le bilan de ceux qui n'ont pas su redresser la patrie, qui mérite bien un autre destin. Demain, pour les constructions nécessaires, en Europe comme en Afrique, pour la justice sociale dans la métropole comme dans les territoires d'outre-mer, pour ce qui reste à faire et qui exige tant de chaque citoyen, nous répéterons cet appel qui garde tout son sens, liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs.
Après la démission du ministère Guy Mollet, dont il était garde des Sceaux, François Mitran est sollicité par Bourgès Mounouri pour entrer dans le nouveau gouvernement.
Le problème posé à M. le Président du Conseil visait essentiellement ceux qui concernent les affaires africaines. Aussi bien celles de l'Afrique noire, loi cadre, investissements de l'Afrique noire qui seuls donneront son efficacité à la loi cadre, problème du Sahara, et enfin, problème de l'Algérie. Si l'on me permet de parler d'abord de moi-même, je dirais que l'UDSR m'a demandé d'obtenir de M. le Président du Conseil pressenti et désigné, à l'heure qu'il est, des garanties sur des réformes de structure en ce qui concerne l'Algérie, dans l'administration et les institutions. Il est bien précisé que nous n'avons fait en ce domaine, pour la direction des affaires d'Algérie, d'exclusive contre personne. Cependant, en l'état actuel des choses, ces réformes de structure n'ayant pu être garanties, j'ai personnellement décliné ma participation.
En 1958, le drame algérien ébranle les fondements de la 4e République. Le ministère Gaillard tombe en avril. La ronde des consultations ministérielles commence. Le 27, René Pleven tente de former un nouveau gouvernement. Le député de la Nièvre explique.
Messieurs, ainsi que vous avez pu l'observer, je suis resté un long moment auprès du président Pleven afin de prendre connaissance des termes de la déclaration qu'il se propose de soumettre à un certain nombre de représentants des partis et un peu plus tard sans doute à l'ensemble de la représentation nationale. À l'heure qu'il est, il serait prématuré de conclure. Cependant, il est certain que j'ai personnellement approuvé la direction dans laquelle M. René Pleven s'est engagé. L'orientation générale de son texte, sous le bénéfice de telle ou telle remarque. Ainsi donc, dans le cadre même de ce qui m'a été communiqué, M. Pleven est en mesure de poursuivre et d'appliquer ses résolutions. Je pense que, personnellement, je serai en mesure d'approuver les différents points de ce texte. Il est évident qu'il reste le contexte politique. Le contexte politique, c'est la constitution, la formation d'une majorité, la constitution d'un gouvernement. Et que la déclaration de M. Pleven n'a pas pour ambition de résoudre indirectement ces problèmes à travers l'élaboration d'un texte. Ce contexte, je me réserve de l'apprécier. Nous le connaîtrons vraisemblablement sous peu, car j'ai le sentiment que M. Pleven souhaiterait, soit par ses propres soins, soit par les soins de toute personne désignée par M. le Président de la République, permettre à la crise d'aboutir.